La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas.
Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Lacueil.
Bonjour, chers auditeurs de Radio Libre en Périgord. Aujourd'hui, en référence à notre pratique au centre de consultation, je voulais évoquer quelques romans, puisqu'il nous arrive de trouver dans la littérature les traces écrites, là, d'un travail que des auteurs qui ont vécu des difficultés, des traumas, comme on dit, essaient d'aborder par le biais d'un roman. Et c'est le cas de 4 romans, je vais en évoquer qu'un seul, qu'on a lu récemment et dont on s'est entretenu au centre de consultation. Il y a un roman qui s'appelle « L'empreinte », écrit par Andrea Marzano-Lesnevich, dont je vous parlerai d'ailleurs. Il y a un autre roman qui s'intitule « Nu » de Jean-Philippe Toussaint, « Lettre d'une inconnue assez connue par ceux qui lisent » de Stefan Zweig et Karen Twill, qui a écrit « Les choses humaines ». C'est des romans qui concernent, selon la façon qu'on a de les lire, comment leurs auteurs sont cernés, embêtés par des mots qui retentissent dans leur vie, qui ont un impact sur leur corps. Ce livre, « L'empreinte » d'Alexandra Marzano-Lesnevich, a été écrit pour traiter un attentat perpétré dans le réel. Ce crime a été commis, attentat perpétré dans le réel, c'est l'auteur qui l'écrit. Ce crime a été commis par son grand-père maternel sur ses 3 petites filles. Et ce roman nous intéresse car il nous dit comment l'écriture a permis de localiser l'indicible qui envahissait sa vie, plus particulièrement son corps, la conduisant sur une voie professionnelle en impasse d'abord. Donc c'est traité comme un roman, mais il s'agit de la vie de l'auteur. Et en lisant ce roman, on parcourt avec lui, avec l'auteur, le chemin qui va du commandement d'un silence, de se taire, c'est le nom secret de la famille, jusqu'au silence apaisé qu'elle atteindra en disant les choses, en les écrivant. Lorsque cet abus a été connu des parents, plus jamais les grands-parents n'ont eu la garde des filles, mais ceux-ci n'ont pas disparu de la vie de la famille. Les parents ont demandé aux enfants de taire ce qui avait eu lieu, dans l'idée que ce que l'on tue n'existe pas. Évidemment, il n'en est rien, se taire n'éteint pas ce qui est tu, bien au contraire. Ici, l'écriture est venue faire réponse à cette chape de plomb. Là, je cite l'auteur. Il s'agit des mots pour le dire jusqu'à un point où un autre silence va être touché. Ce silence est un silence, à ce moment-là, apaisé, parce que le problème a été exprimé, et qui ne fait plus du tout du bruit à l'intérieur, et elle dit qu'il imbibait même l'air qu'on respire. Le silence, c'est un point hors d'atteinte des mots, mais que les mots contiennent en leur cœur. Ce point d'indicible, c'est ce que le psychanalyste Jacques Lacan a appelé l'objet petit a. Une petite vacuole de jouissance, substance vivante, qui excède les mots. Cet objet nécessite d'être logé quelque part pour que le sujet n'en soit pas parasité. C'est à ça que sert une analyse. Permettre au sujet de trouver sa solution pour circonscrire cet indicible devenu trop bruyant dans la vie de celui ou de celle qui décide de faire dans une analyse que ça change. L'abus a eu lieu de ses 3 ans à 8 ans. Alexandria va grandir avec ce secret de famille en elle, comme lorsqu'une induration, c'est-à-dire une induration, c'est un durcissement de la peau qui vient isoler comme ça une épine qui s'est fichée quelque part dans la chair, cet inceste donc, pour faire de la douleur irradiante une gêne permanente. Il y a des symptômes qui font signe que l'épine est toujours là. Une énurésie nocturne qui se poursuit alors qu'elle a pourtant 13 ans. Des troubles alimentaires sévères de type anorexique et de petites absences. La petite fille, solitaire, amoureuse des livres, grandit, accompagnée des récits qui font de leurs affaires professionnelles ses deux parents avocats. Plus tard, elle sera avocate elle aussi, car le projet s'est inscrit très tôt. Défendre des condamnés à mort. La mort, une idée qui hante Alexandria depuis l'enfance. Voilà sa route tracée. Alexandria a 25 ans, lorsqu'elle est sur le point de réaliser son rêve, travailler dans un cabinet d'avocats qui se consacre à la défense des condamnés à la peine capitale. C'est là que la collision inattendue a lieu et son effet d'après-coup. C'est à ce moment-là que son passé, jusque-là relativement encapsulé, va commencer à s'insinuer. Lorsqu'Alexandria visionne la vidéo des aveux de Ricky Langlais, l'assassin du jeune Jérémy, 6 ans. Cet homme, qui a déjà été condamné pour pédophilie, vient d'échapper à la peine capitale. À ce moment-là, contre toute attente, Alexandra veut sa mort. Ce vœu de mort a le statut d'une révélation. C'est le secret de sa vocation qui s'évente. Toute révélation touche une vérité inconsciente. Ses croyances en sont profondément bouleversées. Le mal, la peine de mort, n'est plus simplement le cacon à combattre en dehors d'elle, mais se trouve logé en elle sous la forme inattendue de ce vœu de mort. Cela n'est pas sans conséquence. Son projet de vouer sa vie à la défense des condamnés à mort ne tient plus. Elle abandonne le droit pour l'écriture. Est-ce tout ? Elle sort son homosexualité du placard et ses troubles alimentaires disparaissent. Ce qui lui fait signe de cette collision arrivée par hasard entre son histoire et celle de Ricky Langlais est l'insistance de l'oubli du nom freudien. Dans les semaines qui suivent la vidéo qu'elle a visionnée, elle est incapable de se souvenir du nom de Ricky Langlais. Ce trou dans sa mémoire fait l'écho pour elle à d'autres trous, ses absences, qui lui arrivent parfois de traverser. La vie de Ricky Langlais et la sienne sont désormais nouées. Elle entreprend le récit de son histoire et celle de Ricky, l'assassin de Jérémy. Son livre, L'empreinte, est le fruit d'un long travail d'enquête pour comprendre et saisir la complexité des vies des deux criminels, Ricky et son grand-père. Son livre mêle les deux récits, mais pas seulement. Ce que déplie son écriture, c'est la multiplicité, la variété des histoires à la place de la vérité qui n'existe pas là où était le fait d'un corps. Alexandria tend une multiplicité de récits. L'écriture d'Alexandria, en faisant surgir cette pluralité de sens, circonscrit un point qu'aucun récit ne peut atteindre. Il y a un impossible à dire, quelque chose qui ne cesse pas de résister à l'écriture, un silence au cœur de la multiplicité des récits. Au terme de ce procès d'écriture, ce patientissage des récits a permis d'irréaliser les crimes sans déshumaniser les criminels. Le réel de la blessure a trouvé son lieu, le livre. Il n'existe pas d'histoire simple. Il n'existe pas d'histoire achevée. Celle d'Alexandria peut se poursuivre. Nous portons en nous ce qui nous fait. Voilà, je dirais, comment on a lu ce récit et les autres. Donc, il est certain que la lecture, d'une certaine façon, permet de toucher des indicibles en nous, c'est-à-dire des traumas qu'on a traversés, plus ou moins importants, et qui peuvent permettre l'écriture, la lecture aussi bien, comme une analyse, permettre de dénouer ce qui a été un trauma. Chers auditeurs, merci. À très bientôt.
Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.